Rencontre exclusive avec Jean-Clotte, préhistorien émérite qui était en charge de l'étude de la grotte Chauvet, de sa découverte en 1994 jusqu'à la fin de l'année 2001. Il était présent le mardi 5 décembre 2017 à Villefranche-de-Rouergue, invité par l'Université des Savoirs Partagés pour nous parler de cette caverne ornée exceptionnelle. Il revient sur cette découverte au micro de Onde Courte, la web radio du Libre.
Je m'appelle Jean-Clotte, j'ai 84 ans. Et j'ai eu une vie un peu exceptionnelle, en ce sens que j'ai été professeur d'anglais, de lycée et d'école normale. Et puis, je suis passé au ministère de la Culture, où j'ai été pendant un peu plus de 20 ans, j'étais directeur des antiquités préhistoriques. On appelle ça maintenant le conservateur régional du patrimoine, pour la région Midi-Pyrénées. Et puis, les choses évoluent. J'étais inspecteur général pour le ministère de la Culture, pour tout ce qui a trait à l'art préhistorique.
Alors, vous êtes ici à Villefranche-de-Rouergue le mardi 5 décembre 2017 pour nous parler de la grotte Chauvet. Et mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec l'art magdalénien et puis plus globalement la préhistoire ?
Oui, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la préhistoire, mais pas nécessairement au départ à l'art. Et il se trouve que j'ai fait une thèse sur les dolmens du Quercy, vous voyez. J'ai travaillé sur les dolmens, sur la partie quercinoise de l'Aveyron, mais surtout sur le Lot. Et j'ai fait une thèse de doctorat d'État. Et puis, il se trouve que les hasards de la vie ont fait que je suis devenu conservateur régional du patrimoine, comme on l'appelle maintenant. À l'époque, on appelait ça directeur des antiquités préhistoriques. Et là, les gros problèmes que j'ai eus ont été des problèmes de grottes ornées. Il y a eu des découvertes. Coup sur coup, il y en a eu plusieurs. Et j'étais obligé de m'y mettre, vraiment. J'étais plongé là où on nage, où on se noie. Et alors, j'étais obligé vraiment de m'y mettre, de bûcher la question, de voir les problèmes de conservation. Et petit à petit, j'ai changé ma spécialité. Je suis devenu spécialiste d'art préhistorique.
À l'époque, il y avait déjà des découvertes qui avaient été faites, mais il n'y avait pas forcément, c'était pas forcément un champ d'études. Il y avait des gens, bien sûr, qui allaient dedans.
Surtout, ce terrain de recherche a été occupé, je dirais pas entièrement, mais enfin quand même en grande partie, par l'abbé Breuil. Pendant plusieurs décennies, c'était l'abbé Breuil.
C'est ça. Il y avait comme ça des personnes qui faisaient référence dans le domaine. Alors, la grotte Chauvet, elle a étonné tout le monde quand on l'a découverte, bon, notamment par, évidemment, la datation. Alors d'abord, de quand on date les peintures découvertes ?
Oui, la grotte Chauvet, je la connais bien, parce que lorsqu'elle a été découverte, j'étais à ce moment-là en activité au ministère de la Culture, et c'est moi qui m'occupais de l'art des cavernes. Donc, ils m'ont envoyé pour faire l'expertise. J'ai été le premier scientifique à y mettre les pieds et à voir ce que c'était. J'ai été assez stupéfait par la qualité de ce que je voyais. Et lorsqu'on a fait faire des datations par le radiocarbone, on a été encore plus stupéfait parce que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'on croyait au départ. Moi, au départ, j'aurais dit entre 20 et 25 000. Puis les dates qu'on a eues, c'était l'ordre. Il y en avait autour de 27 000, oui, mais il y en avait autour de 32 000. Alors maintenant, les choses ont changé. Ça, c'était quand même en 94-95. Et maintenant, on s'est aperçu que les dates radiocarbone rajeunissaient. Donc, elles sont un peu plus jeunes que la réalité. Donc, l'art de la grotte Chauvet, en très grande majorité, est autour de 35-36 000 de nous. Donc, c'est très, très ancien. Alors, c'est une des grottes les plus anciennes peintes qu'on connaisse au monde. Et c'est la plus belle parmi toutes celles qu'on connaît à cette époque-là.
À titre indicatif, Lascaux, c'est quelle époque ?
Oui, alors Lascaux, c'est autour de 20 000 ans. On n'a pas les dates qu'on a à Chauvet. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Lascaux, les peintures noires ont été faites avec du dioxyde de manganèse. Et ça, on ne peut pas le dater. Tandis qu'à Chauvet, c'est fait avec du charbon. Et le charbon étant une matière organique, on peut avoir des dattes. Alors, à Chauvet, on a des quantités de dattes. Hein. Alors, ensuite, parce qu'il y a eu des controverses, il y a toujours des gens qui disent « mais non, c'est pas possible, c'est vieux, etc. » Alors, du coup, on a employé toutes les méthodes possibles et imaginables pour dater. Et on a plus de 250 dattes pour la grotte Chauvet actuellement. Ce qui fait qu'il n'y a aucun doute, hein, parce que ça fait, vous savez, quand on les met sur un graphique, ça fait des nuages de points. Il y a deux nuages de points. Il y en a un qui est centré sur 35 000, disons. Et il y en a un autre qui est centré autour de 30 à 31 000. Donc il y a des gens qui sont allés à deux reprises minimum dans cette grotte et qui ont fait des dessins.
Est-ce qu'on pensait avant cette découverte que l'art pariétal, on va dire l'art des hommes préhistoriques, pouvait remonter aussi loin, donc à l'Aurignacien ?
On le savait qu'il remontait jusqu'à l'Aurignacien, parce qu'on a trouvé par exemple des sculptures aurignaciennes dans certains abris, en particulier en Allemagne, et on avait déjà trouvé des peintures aurignaciennes, mais celles qui avaient été trouvées étaient assez frustes. Et donc, les spécialistes disaient, ah ben, en particulier le roi Gourin, hein, lui pensait qu'au début, il y avait des dessins assez frustes, et puis après, quelques milliers d'années plus tard, les gens faisaient des progrès, puis et ils arrivaient à faire Lascaux, si vous voulez. Et puis là, on s'est aperçu que pas du tout, hein, d'emblée, 36 000, c'est pas d'emblée, hein. Moi, je suis persuadé qu'on en trouvera de plus anciennes. Puisqu'il s'agit, les gens qui ont fait ça, c'était des gens comme nous, c'est-à-dire des hommes modernes. On dit homo, sapiens, sapiens, bon. Ce sont des hommes modernes. Ces hommes modernes, ils sont arrivés en Europe entre 40 et 45 000 à peu près avant nous. Donc, qu'on trouve quelque chose autour de 40 000, ce ne serait pas du tout étonnant. Moi, je ne serais pas surpris, en fait, si ça arrivait dans les années qui viennent.
Oui, donc il voit à contrario d'une idée d'un art qui se serait magnifié au fil du temps, où il y aurait une progression comme ça. En fait, Chauvet nous montre que déjà il y avait une maîtrise technique exceptionnelle à moins 30 000. Et
oui,
du coup, à moins 40 000, on pourrait trouver la même chose.
Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que l'évolution de l'art préhistorique, c'est comme l'évolution de tous les arts. Il n'y a pas un progrès. Vous voyez, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où vous avez, qui sont des moments fantastiques dans l'histoire de l'art. Il y en a d'autres où c'est pas... vous voyez, sur le plan esthétique, où on peut discuter. Pour actuellement, l'art contemporain... Justement, si vous allez à une exposition d'art contemporain à Paris, il y en a chaque année, quelquefois on se pose des questions. Hein.
C'est le futur qui nous le dira. Quoi.
Oui,
c'est les générations futures qui valideront ou pas,
oui,
cet art-là.
Sûr.
Quelles émotions cela vous a-t-il procuré dans le cas de la grotte Chauvet, de découvrir comme ça 430 peintures cachées ?
Je ne les ai pas toutes vues le même jour. Hein.
Non, bah, j'imagine.
Ouais.
Mais ça fait quoi quand on découvre
c'est une... Non, la grande émotion, la première visite que j'ai faite, c'était le 29 décembre 1994. Et j'ai eu un choc. Hein. Cette fois-là, j'ai passé pas tout à fait 6 heures dans la grotte, 5 heures ou 3 heures, mais ça a passé à toute allure, hein. Tellement j'étais pris parce que je voyais, puis je prenais des notes, on a fait des photos, etc. Bon. J'ai eu un choc. Alors, évidemment, j'ai pas vu tout. C'est impossible. On l'a vu dans les années qui ont suivi. Mais déjà, il y en avait bien assez, hein, pour se rendre compte que c'était une grotte de toute première qualité. Quand j'ai téléphoné le soir à mon chef à Paris pour en rendre compte, quand je suis sorti de la grotte, je lui ai dit, à mon avis, c'est du niveau de Lascaux. C'est-à-dire ce qu'on trouver de plus beau, sauf que ça s'est révélé beaucoup plus vieux que Lascaux.
Cette grotte Chauvet porte son nom parce qu'elle a été découverte par Jean-Marie Chauvet. À quelle occasion, du coup ?
Oui, ils étaient plusieurs spéléologues. Il y avait un courant d'air qui passait, bon, c'est toujours pareil. Ils ont fait une désobstruction et ils ont désobstrué un passage où les hommes préhistoriques n'étaient jamais passés. On débouche dans la voûte, dans le plafond. Et les hommes préhistoriques, ils ne sont jamais passés par là, ça c'est sûr. Et ce que Chauvet et ses amis ont désobstrué au départ, c'était extrêmement étroit. Moi, je sais que quand j'y suis passé, je l'ai fait à l'époque, maintenant, je ne le ferai pas. Hein. Et c'était vraiment très dur sur le plan physique, parce qu'il y avait une chatière qui faisait à peu près 2,50 m, où on est coincé de partout. Hein. Elle descendait, elle tournait, elle remontait, on coinçait, on était obligé de coincer. Alors là, il ne faut pas s'affoler, il faut le faire tout doucement. Ouais, bon. Alors maintenant, ça a été très élargi, de sorte que quand on va y travailler, il y a des endroits où on marche à quatre pattes, mais c'est tout.
J'allais y venir du coup, donc cette découverte a évidemment donné lieu à une fouille méthodique, vous y avez participé. Pouvez-vous nous parler du processus mis en œuvre et des techniques utilisées pour la datation par exemple, et puis oui. Vos collègues qui faisaient quoi pour...
Oui, il y a eu... À la suite de la découverte, le ministère de la Culture a décidé de lancer un appel d'offres international pour prendre une équipe. Et finalement, c'est mon équipe qui a été choisie, mais ça a été une bagarre, hein, excusez-moi de le dire comme ça. C'est une équipe internationale et on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça ne nous a pas été donné, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu un jury international de 9 préhistoriens. Et ils ont voté à bulletin secret, etc. Bon, et c'est comme ça qu'on a été chargé de faire cette étude. Alors, au début, c'est moi qui ai dirigé l'équipe, et je l'ai dirigé pendant 4 ans. Et ça a été mon choix, parce que je pense que c'est pas très bon de s'éterniser dans une direction, et surtout à partir d'un certain âge. Moi, je me faisais vieux, et donc j'ai dit, au bout de 4 ans, je passe la direction à mon adjoint, avec qui je m'entendais très bien. J'ai dit, et si je continue à avoir la santé et que je continue à m'entendre bien avec l'équipe, je resterai, mais à ce moment-là, c'est plus moi qui serai le patron. Et on l'a fait, et j'y suis resté, et ça a très bien marché, et j'y suis resté jusqu'à il y a 2 ans. C'est-à-dire que je lui ai passé la direction de l'équipe au 1er janvier 2002, vous voyez, et puis jusqu'à il y a 2 ans, deux ans, j'ai participé aux recherches, j'ai fait des relevés, etc. Bon, et puis après, j'ai dit, bon, maintenant, ça va, je commence à vieillir. Et donc, j'ai quitté l'équipe, mais tout s'est fait vraiment dans la meilleure entente possible. C'est pas toujours le cas, hein, mais dans ce cas-là, ça a bien marché.
Et donc, juste pour revenir sur les nouvelles techniques, donc vous parliez de la datation au carbone 14, bon ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques justement pour dater?
Oui, bien sûr, il y a des nouvelles techniques. Il y a des techniques d'analyse comme le radiocarbone, si vous voulez, mais pour le radiocarbone, on ne peut le faire que sur du charbon ou de l'eau, c'est-à-dire sur des matières organiques. Et ensuite, vous pouvez avoir d'autres techniques comme le potassium-argon, et c'est une technique très complexe, je ne vais pas entrer là-dedans. Et il y a la thermoluminescence, etc. Bon, à Chauvet, toutes les techniques possibles ont été employées, parce qu'il y a des gens qui ont été très choqués par ces dates très anciennes. Ils ont dit, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Alors, du coup, on a fait venir des tas de spécialistes français et étrangers de laboratoires différents, et tout concorde, quoi. Y compris, on a également dans l'équipe des géologues, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pu dire quand la grotte avait été fermée. Elle s'est fermée en plusieurs coups, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle s'est fermée parce qu'il y a eu des éboulements, des pans de falaises qui se sont effondrés. Et la grotte, à partir de 22, 23 000 ans, c'était fini, on ne pouvait plus y entrer.
Alors, quelles sont les nouvelles pistes? Vous êtes bien placé pour en parler. Quelles sont les nouvelles pistes d'interprétation, de décryptage des œuvres pariétales en général à ce jour? Alors, vous avez défendu la thèse du chamanisme qui est encore...
Oui. Non, il y a toutes sortes de théories interprétatives. Moi, je pense que penser comme hypothèse, proposer comme hypothèse, je dis bien, hein, on n'a pas la certitude, hein, moi, je n'ai pas la foi, hein, vraiment... que ces gens étaient dans un cadre chamanique, de religion chamanique, c'est ce qui paraît le plus logique. Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. C'est que le chamanisme, c'est la religion qui est partagée par plus de 80% des peuples chasseurs. À l'époque, c'est les chasseurs. Donc, on a, disons, de ce point de vue-là, 80% de chance que ce soit ça. En outre, ça a été une religion qui est passée d'Europe, si vous voulez, en Orient, mais aussi, surtout, dans les Amériques. Or, les gens qui sont allés dans les Amériques, ils venaient d'Europe. Et en Amérique, chez les peuples les plus anciens, indiens, etc., bon, c'est des religions à base chamanique qu'on trouve. Alors, il faut dire, qu'est-ce que le chamanisme ? Bon, alors, le chamanisme se distingue des autres religions par le fait que ce n'est pas du tout une religion révélée. Dans le chamanisme, il y a des gens, les chamans, mais il y en a d'autres aussi, et ça peut être vous et moi, hein, dans certaines circonstances, qui peuvent entrer en contact direct avec le monde surnaturel, vous voyez, avec les esprits. En contact direct, hein, c'est-à-dire qu'ils parlent avec les esprits, etc., pour leur demander des choses, bien sûr, pour leur demander de guérir des malades, pour demander, toutes sortes, tout ce qu'on peut demander. Et les esprits peuvent leur répondre. C'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens. Les chamans peuvent contrôler certains esprits. Donc, quand eux, ils entrent en transe, il y a un esprit qui vient les habiter. Et j'en ai rencontré un chaman il n'y a pas tellement longtemps, il y a deux mois. C'était un Kirghize. Et il était venu justement pour voir la réplique de la grotte Chauvet, parce qu'il y a la plus ancienne représentation de panthère. Et lui, son animal à lui, c'est la panthère. Et donc il a fait une prière devant le cerf. Bon. Ça, c'est typique, vous voyez. Mais je suis allé en Sibérie, j'ai passé quelques temps, j'ai passé 2 ou 3 semaines avec un chaman. J'ai voyagé avec lui, j'ai rencontré une autre chamane et j'ai assisté à plusieurs cérémonies chamaniques. Bon. Et dans la cérémonie chamanique, le chaman, soit il entre en transe, soit il fait entrer des gens en transe. Par exemple, il y a eu une cérémonie de guérison. C'était notre cuisinier, on était un petit groupe, c'est notre cuisinier qui avait une serre à l'estomac. Et le chaman lui a fait une cérémonie de guérison. Il l'a mis en transe à lui, c'est-à-dire que cet homme, il jouait du tambour autour de lui, etc. Et cet homme, à un moment donné, il s'est affaissé, il s'est couché, il avait les yeux complètement révulsés. Et dans notre équipe, il y avait un médecin qui a dit « Oui, ça y est, il est en transe, quoi. Il est dans un autre monde. » Et après, il l'a réveillé, et ainsi de suite. Voilà. Et alors, l'idée...
Comment ? Ça allait mieux ?
Ça allait mieux, oui, bien sûr que ça allait mieux. Bien sûr que ça allait mieux. Alors, est-ce que maintenant ça va mieux ? J'en sais rien. Mais à ce moment-là, ça allait mieux, oui, bien sûr. Et l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a l'idée de base, et c'est ça qui change avec les autres religions, c'est que le chaman peut entrer en contact de deux façons avec le monde surnaturel, soit que lui voyage dans le monde surnaturel, il envoie son esprit, ou qu'il fait venir des esprits, vous voyez, ou qu'il envoie quelqu'un hein, aussi. Tandis que vous prenez toutes les autres religions, prenez l'islam, prenez la religion chrétienne, etc. Non, si vous priez la Vierge Marie, vous ne vous attendez pas du tout à entrer en contact avec elle, à lui parler, etc. Vous voyez, ça peut arriver, mais c'est hyper rare. À ce moment-là, c'est Bernadette Soubirous, si vous voulez. Mais dans l'histoire du christianisme, c'est très, très, très rare, c'est tout à fait exceptionnel. Tandis que pour les chamans, c'est quoi ? C'est leur façon de procéder. Ça, c'est vraiment différent. Alors, moi, je ne dis pas qu'ils ont fait leur dessin en étant en transe. C'est impossible. Parce que quand il est en transe, il ne va pas faire à ce moment-là des dessins, etc. Non, c'est pas possible. Bon. Mais que ces dessins représentent des esprits qu'ils ont vus, etc., peut-être, oui, ça paraît assez logique. Vous voyez, le chamanisme paraît assez logique, mais on n'en a pas une preuve formelle. On a une preuve formelle pour rien, d'ailleurs, hein, ce qui s'est passé il y a 15 000 ans, ou 20 000 ans, ou 30 000 ans.
l'art était présent pas seulement dans les grottes ornées qu'on connaît, qui étaient plutôt au final, qui n'étaient pas des lieux d'habitation, hein, qui étaient des lieux peut-être oui. de cérémonie, mais il y en avait à l'extérieur, et sans doute sur quantité d'art mobilier, d'objets du quotidien.
Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que une religion, ça touche tout. Ça touche tout. Vous voyez, moi, mes parents, ils étaient très catholiques. Ils m'envoyaient au catéchisme quand j'étais petit, etc. Mais mes parents, ils n'auraient jamais mangé sans faire le bénédicité. Vous voyez, donc à ce moment-là, c'est une cérémonie qui a lieu avant la prise de nourriture. Toujours, toujours, ils disaient un bénédicité. Et à l'époque, maintenant, ça se fait plus beaucoup, je suppose. Mais à l'époque, ça se faisait couramment. Et alors, il y a toujours des cérémonies très élaboré pour les décès, il y a des cérémonies pour les mariages, etc. Mais ça, vous le trouvez, quelle que soit la religion, vous le trouvez partout, ça. Ils n'habitaient pas dans les grottes. Pourquoi auraient-ils fait ces dessins? Ils l'ont fait dans le cadre d'une religion. Et moi, je pense que le chamanisme, c'est ce qui rend le mieux compte de ce qu'on a. Voilà.
Il y a énormément de sites dans le sud de la France, de grottes ornées, de sites préhistoriques, et en Espagne. Alors, comment on peut protéger ces sites tout en les faisant découvrir au grand public? Donc, c'est la question de la transmission. Et puis, vous allez pouvoir nous parler ainsi de la caverne du Pont d'Arc.
Oui, vous avez raison. Alors, il faut les faire reconnaître au public. Alors, il y a plusieurs façons. D'une part, nous, les spécialistes, qui sont les étudiants, nous faisons des publications. Et on fait des publications pour d'autres spécialistes, mais on fait des publications grand public avec des belles photos, surtout maintenant, c'est faisable. Bon, on fait pas mal de livres destinés au grand public. Donc, les gens qui s'intéressent, ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent en matière de livres et même de CD ou autre avec les méthodes actuelles. Deuxièmement, il y a des grottes ornées qui sont ouvertes au public. Hein. Il doit y en avoir en tout une trentaine en Europe. Vous voyez à peu près la moitié en Espagne et la moitié en France. Par exemple, dans l'Ariège, il y a la grotte de Nyon, qui est une grotte très importante, qui est ouverte au public toute l'année. En Dordogne, il y a la grotte de Fondegomme, il y a la grotte des Combarelles, etc. Donc, des grottes ornées ouvertes au public, il y en a. Au Pays Basque, il y a la grotte d'Istoriz. Et en Espagne, il y en a également une quinzaine qui sont ouvertes au public. Donc les gens qui veulent voir ce que c'est véritablement, ils peuvent le faire. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle les facsimilés. Le premier, ça a été celui de Lascaux, qui a été fait il y a à peu près 35 ans, hein, et qui a été remarquablement bien fait. Et donc ça marche très bien. C'est Lascaux 2. Alors, ce Lascaux 2, sur le plan financier, ça a été une très, très bonne affaire, parce que chaque année, même ces dernières années, il faisait 250 000 visiteurs par an. Bon, très bien. Et ça a donné l'idée de faire d'autres reproductions, comme Lascaux 2. Et alors, il y a Chauvet, qui a été ouvert il y a un peu plus de 2 ans et demi, et on a appelé ça la caverne du Pont d'Arc Ardèche. Et il y a pour Lascaux 4, Lascaux 3, ça a été une exposition qui a circulé, et Lascaux 4, ça a été ouvert, ça va faire un an en décembre, là. Ça fait un an maintenant. Et ça marche très, très bien, vous voyez. Alors, il y a Altamira aussi, il y en a d'autres. Donc, ces représentations reconstituées, refaites, elles sont faites avec un grand souci de la réalité. Et c'est pourquoi elles ont du succès, parce que le public n'est pas idiot. Hein. Si on lui faisait quelque chose d'un peu médiocre, il s'en apercevrait.
Oui, parce que la grotte Chauvet, dans tous les cas, ne sera jamais ouverte. L'original
non.
ne sera jamais ouverte au public.
Non, non. Et Lascaux non plus.
Et donc, voilà, pour les passionnés, donc, il y a moyen de visiter les grottes que vous avez citées, celle de Nyon, et c'est vrai, exceptionnelle, et puis il y en a beaucoup, hein, dans le coin, il y a Pêche-Merle aussi, il y en a un paquet.
Oui, il y a Pêche-Merle aussi.
Très bien, mais je vous remercie.
Avec plaisir.
Place à la conférence maintenant avec vous, donc à la découverte de la grotte Chauvet, mais en images cette fois-ci.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour la web radio ondescourtes.fr. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Retrouvez toutes nos émissions et nos podcasts sur ondescourtes.fr, la web radio du libre.